Sud Radio, il est 2h. Parlons vrai.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 9h07, merci d'être avec nous, 0826-300-300, vous n'hésitez pas à intervenir. Clément Barguin est là pour regarder l'actualité, pour nous. Nous allons revenir sur l'antisémitisme, sur la visite de Xi Jinping, sur l'intervention de Valérie tête de liste aux européennes, tête de liste de la majorité aux européennes, enfin de la majorité du pouvoir en place, hein, Renaissance, Modem et Horizon. Nous allons parler de tout cela, nous allons parler du plan Ecofito, mais je voudrais commencer, Clément, par Colombe. Colombe, rappelez-nous.
Alors Colombe,
pour ceux qui ne sauraient pas, parce que son interview a fait beaucoup de bruit, elle a dit ce qu'elle pensait, elle était à un meeting du Rassemblement National, c'était je crois jeudi ou vendredi.
Le 1er mai dernier,
mercredi.
C'est une sexagénaire qui est au RSA, Colombe, électrice du Rassemblement National. Elle a ému, après la diffusion de son interview sur les réseaux sociaux de TF1, en marge donc d'un meeting de Marine Le Pen le 1er mai à Perpignan, elle a fondu en larmes en racontant sa situation personnelle, expliquant qu'elle ne parvenait pas à payer ses factures, qu'elle ne trouvait pas de travail, mais qu'elle était bénévole au Resto du Cœur. Et cette prise de parole lui a été reprochée. La direction des Restos du Cœur lui aurait rappelé la règle. On ne peut pas se présenter en même temps comme membre des Restos du Cœur et militant politique, en mettant en principe le principe de neutralité en avant.
Alors justement, pour tout savoir et pour dire la réalité des choses, parce que beaucoup, encore une fois... Beaucoup de propos sont tenus ici ou là, ou écrits. Jérémy Calfon est l'avocat de Colombe, il est avec nous en direct. Bonjour maître.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Colombe ne veut plus s'exprimer, je le comprends, vous exprimez à sa place.
Absolument, Colombe n'a rien demandé à personne.
Oui.
Colombe a simplement été interrogée par un journaliste de TF1 à la sortie d'un meeting politique. Elle n'est pas une militante politique par ailleurs, et c'est pour cela qu'aujourd'hui elle aspire à retrouver le calme et la sérénité. Sa situation est déjà assez difficile, ne rajoutons pas une pression médiatique par-dessus tout cela.
Alors, disons les choses clairement. Colombe a 60 ans, Colombe est au RSA, elle cherche du travail, hein, maître? Elle cherche du travail. D'ailleurs, si quelqu'un peut lui donner du travail grâce à nous, eh bien, j'en serais le premier heureux. Vraiment, franchement. Et pourquoi pas, on va lancer cet appel. Hein, peut-être que quelqu'un va lui proposer un boulot. Maître Calfon. Et en même temps, elle est bénévole au Resto du Cœur. Depuis longtemps.
Oui, elle est bénévole depuis 1990. Et elle est bénévole au Resto du Cœur, mais elle a également été bénévole dans d'autres associations de charité. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de sa vie et qui est particulièrement important pour elle.
Oui, c'est particulièrement important pour elle parce que ça lui permet de rester en activité, en quelque sorte, et de garder ce lien social indispensable, surtout... D'autant plus indispensable quand on a des difficultés au quotidien pour joindre les deux bouts.
On garde effectivement un lien social et puis une certaine forme de maîtrise. Quand vous êtes bénévole au Resto du Cœur, vous vous sentez utile dans la société et vous vous sentez, si vous voulez, en pleine possession de vous-même. Vous sentez que vous avez votre place et vous sentez que vous aimez vous aider les gens, encore plus démunis que vous. D'ailleurs, j'ai fait un lapsus, j'ai dit aimer au lieu d'aider, mais en réalité, c'est exactement ça. Colombe, elle aime les gens, elle aime son prochain. Et le fait d'être bénévole, ça lui permet, en fait, de garder son utilité, de garder une certaine forme de dignité, et c'est un peu ça qu'on lui a enlevé.
Alors justement, est-il vrai qu'on lui a écrit, que les responsables du Resto du Cœur lui ont écrit en lui demandant de ne plus venir ?
Alors c'est une responsable locale qui a, le 3 mai dernier, passé un appel à Colombe en lui expliquant qu'elle avait fauté, c'est le mot utilisé, en mélangeant politique et associatif, et qui lui a donné pour instruction de présenter sa démission au plus vite. Aujourd'hui, tout porte à croire qu'il s'agit seulement d'une initiative locale, mais, je le confirme, Colombe a été poussée à la démission et elle a dû le faire à contre-cœur.
responsable local, c'est-à-dire le responsable ou la responsable locale des Restos du Cœur.
Une personne qui absolument, localement, était le responsable du Resto du Cœur et Colombe travaillait sous l'autorité de ce responsable.
Alors que va-t-elle faire ?
Écoutez, elle n'a pas envie de faire de vagues, pour reprendre une expression qui est plus très populaire de nos jours. Colombe, ce qu'elle souhaite, c'est reprendre ses activités caritatives en tout anonymat.
Elle va les reprendre.
Elle souhaite les reprendre. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de message des Restos du Cœur lui demandant sa réintégration. Donc nous ne savons pas encore sous quelle forme elle va reprendre son activité associative. Mais pour elle, qui est bénévole dans des associations depuis plus de 30 ans, c'est impensable de ne plus en avoir.
Mais dites-moi, maître, je vais même plus loin. C'est de la discrimination.
Alors, ça pourrait être de la discrimination en raison des opinions politiques.
Ben oui.
Si une procédure d'exclusion avait été engagée. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu fort de parler de discrimination, mais bon, dans l'esprit, il y a une certaine forme d'ostracisation de Colombe, ouais, parce qu'elle a tout simplement, elle n'a même pas évoqué de préférence politique au demeurant, elle a simplement évoqué sa situation personnelle, ses difficultés à elle, et ce que je reproche au Resto du Cœur, c'est que Colombe n'a nullement contrevenu à la charte du bénévole, puisqu'elle n'a pas associé les Restos du Cœur à l'action ou aux opinions du Rassemblement National, elle n'a tenu aucun propos polémique. Colombe, elle s'est contentée de parler de son cas à elle,
bien
et
sûr,
je ne vois pas pourquoi elle devrait être exclue à ce titre.
Mais dites-moi, elle a le droit de voter Rassemblement National et d'être en même temps bénévole au Resto du Cœur, ça me paraît.
Naturellement, la charte parle, oui, de politique active, la charte dit qu'on n'a pas le droit d'associer le nom des Restos du Cœur à une activité militante, mais Colombe n'a pas d'activité militante. Colombe est une simple électrice et on peut voter pour absolument qui on veut dans ce pays sans que ça nous soit reproché.
Bon, maître, vous lui transmettrez toutes nos amitiés, hein,
et
notre
pas
soutien.
Merci
maître, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio ce matin, il est 9h14, c'est clair au moins, c'est clair, moi je tenais absolument à mettre les choses au clair, voilà la situation aujourd'hui, il y a eu cette lettre envoyée par l'une des responsables des Restos du Cœur. Pour l'instant, les Restos du Cœur, même au niveau national, n'ont pas réagi. J'aimerais bien d'ailleurs avoir le patron, le responsable national des Restos du Cœur, ça serait bien de l'interroger, on va essayer de l'appeler si possible. Et voilà, et Colombe ne souhaite qu'une chose, d'abord c'est, elle veut rester dans l'anonymat maintenant, et elle ne souhaite qu'une chose, c'est reprendre ses activités de bénévolat et surtout travailler si possible. Bien, il est quelle heure ? On va faire une petite pause tout de suite et on se retrouve pour le reste de l'actualité. À tout de suite.
Sud Radio H
102.
Sud Radio.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges. Les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue.
On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps, mais je...
Je vis dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur, seulement regarde comme on est seul.
Je te hais de
et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore.
On a parcouru le chemin, on a souffert en silence, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore.
On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, la visite de Xi Jinping, Clément Barguin. Où en est-on? Il est arrivé hier, quel est le programme?
C'est ça, il est arrivé hier, accueilli par Gabriel Attal. Il va être reçu ce matin par Emmanuel Macron à l'Élysée, qui va ensuite l'accompagner demain dans les Pyrénées. Le président chinois, Emmanuel Macron, qui doivent notamment parler des questions géopolitiques, notamment la recherche d'une résolution de la guerre en Ukraine, au moment où Pékin continue d'apporter son soutien à Moscou. Il sera aussi question des échanges commerciaux. La Chine est à la fois un partenaire commercial et un concurrent. L'Union européenne a multiplié ces derniers mois les enquêtes sur les subventions étatiques chinoises à plusieurs secteurs industriels, notamment les voitures électriques, accusées de fausser la concurrence. Et puis, il sera aussi question des droits humains. Emmanuel Macron le dit, préférer évoquer les désaccords plutôt derrière des portes closes. Valérie Ayer, qui est la députée européenne, oui, tête de liste Besoin d'Europe pour les Européens, était votre invité politique, oui, sur la question des Ouïghours. Elle dit que le Parlement européen s'est exprimé, mais je la cite, quand on parle d'internement, de stérilisation forcée, d'effacement de la langue et de la culture, oui, très probablement, on peut penser qu'il s'agit d'un génocide. C'est à la justice internationale de trancher. La situation des Ouïghours est insupportable. Voici ce qu'a déclaré Valérie Ayer à votre micro.
Alors, sur la visite de Xi Jinping en France, nous avons deux auditeurs, Marie qui est dans la Drôme et Jean-Pierre qui est à Chatou dans les Yvelines. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie, bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Jean-Pierre, vous avez vécu plusieurs années en Chine, on se connaît depuis longtemps. Marie, je vais commencer avec vous, Marie. Xi Jinping, Xi Jinping, je rappelle quand même que c'est le président à vie maintenant, hein? Président à vie, que l'impérialisme chinois n'a jamais été aussi fort que cette volonté de... Parce que la guerre économique dans tous les cas, déjà, s'est intensifiée, et guerre géopolitique entre les États-Unis et la Chine. La Chine qui cherche absolument des relais en Europe et qui cherche à détourner l'Europe des Américains. D'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est que Xi Jinping ira ensuite en Serbie et en Hongrie, parce que la Chine fait de la Hongrie sa tête de pont dans l'Union européenne. Marie, comment regardez-vous cette visite ?
Moi, je suis très très étonnée que personne ne réagisse d'une façon négative à cette venue, parce qu'il ne faut pas oublier que Monsieur Xi Jinping, je ne sais pas quel mot employer, à vie, comme vous venez de dire, du Parti communiste chinois, a fait des millions de morts dans son pays. Il n'y a aucune liberté. On a vu ce que ça a donné lors du dernier problème en France et dans le monde. Et en même temps, quand on se rappelle aussi, parce que là, il ne faudrait pas oublier non plus, qu'en 2017, Macron a dit qu'il était maoïste, et donc on en voit, en fin de compte, tout à fait sa politique par-dessous, qui avance inexorablement. Et ce parti communiste chinois, c'est grave, parce qu'au point de vue même économique, alors on parle pas au point de vue des idées, parce que là c'est catastrophique, mais au point de vue économique, quand on sait que, comme vous avez dit ce matin, que la vente des voitures électriques va envahir l'Occident, moi je dis
l'Europe, la Chine a cette volonté-là, voilà, dans tous les cas.
Et je viens d'être confrontée à un problème que peu de gens disent. J'ai une voiture thermique parce que je trouve que les voitures électriques n'ont pas du tout écologique et que j'ai pas envie du tout de passer une voiture écologique.
C'est un autre débat.
Oui, mais je viens d'être confrontée quand même à un problème énorme au point de vue économique, oui, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes formés à la mécanique Donc, dans quelques années, on va se retrouver devant un énorme problème que les voitures thermiques ne pourront plus être réparées parce qu'il n'y aura plus de professionnels. Mmh. Par contre, ben, les voitures électriques, ben, je ne sais pas ce que ça viendra.
Bon, donc, mais la voiture électrique, beaucoup, on n'est pas obligé de l'acheter chinoise. Hein. On peut aussi l'acheter européenne. Bien,
oui, ben,
Marie.
Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup.
Ben, Marie, non, mais le problème, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut absolument instaurer des droits de douane beaucoup plus forts comme le font les Américains. Jean-Pierre, comment regardez-vous cette visite, vous qui connaissez bien la Chine? La Chine qui a évolué, là, hein, Jean-Pierre?
Oh là là, elle a plus qu'évolué, elle a même pris les devants sur plein de domaines par rapport à ce que nous, on peut faire.
Oui.
Donc, moi, oui. Je vois d'un bon œil, hein, c'est pas...
Vous voyez d'un bon œil.
Si, bah, de toute façon, si on discute pas avec les Chinois, on les aura contre nous, et on est déjà pris entre les Américains et les Chinois. À un moment, il va falloir que l'Europe se réveille, et que l'Europe pèse dans ce... Dans cette vision économique du monde.
Donc, il faut plus d'Europe pour résister aux deux grands.
Mais vous n'avez pas le choix. Là où il est malin, Xi Jinping, c'est qu'il vient traiter avec les Français, après il va traiter avec les Allemands, après il va traiter
avec... Non, il ne voit pas les Allemands, mais il a reçu Scholz il n'y a pas de temps.
Ben oui, il les a reçus il n'y a pas longtemps, donc il essaye de traiter pays par pays, comme ça il n'a pas le poids de l'Europe face à lui. Et tant que l'Europe ne sera pas complètement unie face à ces deux grands géants du monde, on ne pèsera pas. Il faut que l'Europe pèse plus que ça dans les discussions internationales. Oui. Et malheureusement, le discours européen n'est pas présent. On a bientôt les élections européennes, il faut que les gens comprennent l'enjeu des élections européennes. Alors oui, il se passe des choses dans notre Europe, vieille Europe, qui a ralenti, qui a du mal à s'extirper et à sortir de cette emprise américaine et chinoise. Mais moi qui ai vécu en Chine, si on le laisse faire, vous verrez que la Chine prend de plus en plus de poids dans le monde, il y a de plus en plus de soutien, et ils ont très bien compris que s'ils arrivaient à diviser l'Europe, ils seraient les leaders du monde.
Vous avez raison, Jean-Pierre, là. Dans votre analyse, vous avez raison. Comment pourrait-on, nous, seuls Français, résister à la puissance chinoise et à la puissance américaine? Franchement. Je pose la question à nos auditeurs. C'est bien beau de vouloir diviser l'Europe, mais... Non, Jean-Pierre?
Ouais. Ah oui, mais moi je suis convaincu, moi je suis un Européen convaincu, et après avoir vécu en Chine, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire et à la vitesse où ça va... Oui. Et si on se réveille pas en Europe, ils vont nous manger tout cru. On le voit avec la voiture électrique. Les Chinois, ça fait 15 ans qu'ils travaillent sur la voiture électrique. On avait démarré un beau projet avec la Zoé, sauf qu'on l'a pas, développé. On s'est endormi. On s'est laissé un peu endormir par les Américains. Et là, les voitures chinoises à moins de 10 000 euros, vous verrez qu'on en verra bientôt sur le marché européen.
Avec Jean-Pierre.
Ils sont en train de signer des accords.
Avec Jean-Pierre, deux pays, la Chine et les États-Unis, qui ne respectent aucune règle du commerce international. En plus. Oh
bah, si vous saviez ce qu'ils s'en font, des règles. Oui, les règles sont faites pour être détournées.
Bah, évidemment. Alors que.
C'est pour ça qu'il faut une Europe forte.
Et c'est pour ça qu'il faut une Europe forte. Mais vous avez raison. Bien. Merci Jean-Pierre, dans tous les cas. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Il est 9h25. Tiens, la montée de l'antisémitisme. Clément Barguin avec cette étude de l'INSEE.
Oui, de l'IFOP. C'est une enquête réalisée par l'IFOP qui révèle que plus de 8 juifs français, plus de 8 juifs français sur 10 affirment craindre d'être victimes de la haine anti-juive. L'étude révèle que depuis les massacres du 7 octobre, un quart des juifs en France a été victime d'un acte antisémite pour 12%. Cela est même arrivé à plusieurs reprises. 33% des personnes interrogées de confession juive disent avoir réduit ou arrêté par exemple leur déplacement en VTC. 44% ne portent plus la kippa dans la rue. Autre enseignement inquiétant de l'enquête, le rajeunissement entre guillemets de l'antisémitisme. 35% des moins de 25 ans estiment qu'il est justifié de s'en prendre aux juifs en raison de leur soutien supposé à Israël, contre 21% de la population générale.
Brigitte Etaillère, bonjour Brigitte.
Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à tous vos auditeurs.
Vous êtes de confession juive, votre mari ne l'est pas. Et vos enfants portent le nom de votre mari. Et vous en êtes soulagée.
Oui, j'en suis soulagée parce que du coup, ça les met à l'abri, déjà de certains poncifs et de certaines discriminations. Oui. Depuis toujours d'ailleurs. En plus, bon, moi je pratique, eux non. Donc, voilà, ça évite le danger quand on va à la synagogue. Voilà, mais bon, au-delà de ça, il y a énormément de gens, et je les comprends, de la communauté, qui enlèvent les mezouzas des portes. Enfin voilà, ils sont plus discrets qu'à l'accoutumée, leur nom, quand ils commandent par Internet. Enfin, tout ça, on en parle à la synagogue. Je veux dire, les Uber, c'est fini. On prend plus de Uber pour se déplacer, ou alors on va prendre un Uber dont on sait que le chauffeur est de la communauté juive. Comme ça, on est sûr de ne pas craindre. Les noms circulent. On se dit, bon, bah voilà, on va appeler un.
Mais vous avez été, pardon, Brigitte, mais vous vous sentez menacée, vous avez été agressée, vous avez été insultée, alors, je ne sais
moi
pas.
Moi, personnellement, j'ai été une seule fois dans ma vie agressée à cause de ma magaine valide en sortant de la cour d'appel de Paris. J'avais la magaine David autour du cou et bon, une personne de confession musulmane manifestement voilà m'a agressé en me traitant de salope mais bon voilà c'est assez et je veux dire c'est assez courant là par exemple sur Twitter moi j'ai une position sur Twitter qui est manifestement pro-israélienne bon faut voir tout ce qu'on prend comme insulte par enfin tous les antisémites de la création qui ont quand même en commun d'avoir un QI négatif hein une inculture crasse sur l'histoire d'Israël et sur le conflit, à commencer par Ima Hassan, ça cliquait les fistes. Je veux dire, personne n'est dupe, ils importent volontairement ce conflit dont la plupart des Français se foutent uniquement pour accoler les voix islamistes des banlieues. On ne peut pas expliquer autrement sur le thème de campagne chez les filles alors que les élections sont européennes. Hein. Enfin, plus personne n'est dupe. Mais ceci étant dit, ils ont un mépris de classe insupportable envers les musulmans des banlieues en pensant qu'ils vont forcément voter pour Ima Hassan parce qu'elle est antisémite. C'est ridicule. Moi, je connais des tas de musulmans qui sont, je suis désolée, pro-juifs, à commencer par l'imam Chalgoum, qui a bien compris les enjeux et qui, depuis longtemps, est fini avec le pays d'Israël et avec les Juifs. Donc,
on peut défendre l'existence d'Israël, évidemment. On peut défendre la volonté d'Israël de se défendre sans pour autant être en accord avec Benjamin Netanyahou.
Mais c'est précisément le problème, c'est qu'ils font un amalgame avec ça. C'est comme si moi j'étais agressée dehors en tant que Française pour la politique de Macron. Oui. Bah, tout le monde trouverait ça idiot. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ça idiot quand c'est Israël? Moi, je n'ai rien à voir avec Benjamin Netanyahou. Je ne sais pas ce qu'il fait de sa politique. Je ne connais pas exactement la politique d'Israël, même si j'y vais régulièrement. Moi, j'y vais en vacances comme une Française. Oui. Voilà, de confession juive. J'y vais pas comme une Israélienne. C'est comme si on m'agressait dans la rue parce que Macron n'arrête pas de faire des trucs contre la France. J'aurais tendance à dire, mais attendez, déjà, je n'ai pas voté pour lui. Et ensuite, moi, j'y suis pour rien.
Évidemment.
C'est exactement la même chose. Voilà.
Bon. Julien, merci Brigitte. Julien, sur cette montée de l'antisémitisme en France. Julien, vous êtes dans l'Essonne. Bonjour Julien.
Oui, bonjour Jean-Lac.
Bonjour.
Votre intervention précédente vient de me retirer les mots de la bouche, littéralement. Parce que c'est exactement le fond de ma pensée. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on a affaire à une communauté qui est extrêmement bien intégrée, qui, dans ce que je connais, majoritairement critique justement la politique colonialiste de Netanyahou.
C'est vrai. J'ai plein de connaissances qui sont juives et c'est vrai qu'elles critiquent, la plupart critiquent Benjamin Netanyahou.
Oui, et j'en connais même qui ont été jusqu'à refuser d'aller faire l'alia en sachant pertinemment qu'ils allaient perdre leur double nationalité parce qu'ils ne voulaient pas être en accord avec cette politique-là. Donc c'est quand même un acte fort. Et ben, malgré tout, ils ont quand même peur des répercussions qu'ils ont en France, alors qu'ils sont extrêmement bien intégrés et que ils posent aucun souci au commun des. Au quotidien. Quoi.
C'est parce que certains mélangent tout, volontairement ou pas, entre la politique israélienne, les pratiques et les décisions de Netanyahou et l'antisémitisme.
C'est quand même assez dingue de dire que des problèmes qui se passent à 3500 km d'ici ont un impact sur des gens qui n'ont rien demandé à ni d'elle ni là-bas. Enfin, c'est quoi non, c'est d'une injustice la plus crasse, quoi.
Merci beaucoup, Julien, dans tous les cas. Merci.
Il ne faut pas s'empêcher de nier quand même les crimes de la colonisation. Il faut quand même être honnête dans les deux sens.
Mais les crimes de la colonisation existent, sont réels. Et il va falloir qu'Israël réponde de cela, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est absolument évident. Mais bon, merci dans tous les cas, Julien. Merci d'intervenir le matin, 0826 300 300. Les élections européennes, j'y pensais. C'est vrai que je regardais le sondage d'hier. C'est que les Français s'intéressent peu pour l'instant à cette élection européenne. La moitié des Français s'y intéressent. Beaucoup connaissent pas bien l'Europe, le fonctionnement de l'Europe. Bah, il faut absolument, absolument se renseigner avant d'aller voter. Hein, savoir pour qui on va voter, pour quelle Europe on va voter. Parce que nous sommes en partie quoi qu'on en dise et quoi qu'on le pense et quoi qu'on le veuille, nous sommes en partie dépendants de la réussite européenne. Évidemment, nous sommes maintenant intégrés. Il y a trop d'échanges de biens et de personnes entre les pays européens pour refaire marche arrière. Il est 9h31. Dans un instant, nous allons parler de la Chine, de la visite de Xi Jinping avec un débat autour. Avec qui, Clément Barguin? Présentez-nous nos débatteurs.
Alors, je ne les ai pas sous les yeux.
Ah, vous les avez pas sous les yeux. Moi, je les ai.
Alain Wang, qui est sinologue.
Voilà. Et Jean-Baptiste Noé, qui est rédacteur en chef de la revue Conflit, qui est éditorialiste sur Sud Radio. A tout de suite, il est 9h32.
Sud Radio Anglette.
103.9.
Sud Radio.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. We'll be right back.
numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 9h35, à l'occasion de la visite en France du président chinois Xi Jinping, nous débattons sur notre relation avec la Chine, sur la géopolitique, parce que la géopolitique change et bouge en permanence. Le régime chinois a changé, nos relations ont changé, l'Europe est partagée entre les États-Unis d'un côté la Chine de l'autre. Quelle Europe, quelle indépendance européenne doit-elle être construite? Alors, pour débattre de tout cela, de ces relations avec la Chine, nous avons deux invités. Je suis heureux de les recevoir. Jean-Baptiste Noé, par ordre alphabétique, qui est rédacteur en chef de la revue Conflit, éditorialiste sur Sud Radio.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Et le sinologue Alain Wang, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, Xi Jinping, regardons les choses clairement. La Chine a changé, hein, parce que on a depuis longtemps, la Chine à la fois fascine, c'est un peu comme la Russie, à la fois fascine et en même temps effraie. Ça a toujours été un peu comme ça. Mais la Chine aujourd'hui, le pouvoir chinois n'est plus le même que celui qu'il était il y a encore 15 ans ou 20 ans. Ça a beaucoup changé. Qui veut commencer?
Si on revient en arrière, oui. On avait quitté dans les années 80 véritablement, oui, la Chine maoïste avec, oui, l'arrivée de Deng Xiaoping, c'était quatre modernisations
qui avait ouvert la Chine,
une grande réussite économique, on peut dire, oui, hein, faut toujours le reconnaître quand même. Mais de l'autre côté, depuis 2012, l'arrivée du président Xi Jinping, celui dont on parle, oui, évidemment,
président à vie,
président à vie maintenant, donc il a changé la constitution, il a mis sa pensée au sein du parti communiste chinois, mais aussi, oui, au sein de la constitution. Les enfants apprennent sa pensée dès l'école primaire, donc on est véritablement face à quelqu'un qui est en train de façonner une nouvelle Chine à sa façon et on va dire d'une manière assez dictatoriale. Quand même.
Oui, on est presque en dictature, c'est, oui, une autocratie dans tous les cas. Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste? Oui, cette évolution de la Chine, est-ce que d'abord nous l'avons prise en compte et est-ce que nous l'avons vue vraiment?
Je pense ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai que Xi Jinping a dit, par exemple, que ces deux références étaient Mao et Joseph Staline, donc ça, oui, ça pose un peu le débat. Mais il faut aussi noter l'extraordinaire progrès de la Chine. Je pense pas qu'on ne pouvait pas imaginer, il y a encore 40 ans, où serait la Chine aujourd'hui. C'est quand même la deuxième puissance économique mondiale. Elle pèse sur de nombreux points, dans l'automobile, dans la monnaie. Sa monnaie, aujourd'hui, est en mesure de concurrencer le dollar. Et c'est ça aussi qui nous fascine. C'est comment ce pays, qui n'était pas grand-chose il y a 50 ans, avec des famines, avec une très grande pauvreté, aujourd'hui est en mesure de faire jeu égal avec les États-Unis.
Oui.
Alors oui, là, il faut bien se rendre compte que c'est grâce aux Chinois, parce que là, on parle du gouvernement, il faut parler aussi du peuple chinois. C'est grâce à l'investissement qu'ont eu tous les Chinois depuis les années 80 dans la construction d'une économie privée, hein, qui était extrêmement dynamique, hein, ça représente 70% de l'économie, oui, chinoise. C'est eux qui ont construit la Chine.
Alors parlons de cet impérialisme. On peut évoquer, je peux employer le mot, impérialisme chinois, on est d'accord.
Alors oui, ou si ce n'est que la Chine, oui, ne contrôle pas de pays extérieurs, ou n'a pas la volonté de contrôler des pays extérieurs. Il y a le cas de Taïwan, évidemment, que nous, on, oui, considère comme un pays indépendant, que la Chine considère comme étant une région qui lui appartient. Mais il n'y a pas encore, hein, mais l'idée, oui, de s'étendre, l'idée d'une domination économique, éventuellement d'une domination culturelle, mais pas encore d'une domination militaire.
D'ailleurs, je suis étonné, alors vous allez répondre, mais je suis étonné que dans le cadre de ce voyage, personne n'évoque Taïwan.
Parce que c'est un sujet extrêmement sensible et qu'on ne sait pas comment faire.
Oui, on ne sait pas comment, voilà, faire. Et les Français ne savent pas comment faire. Oui,
ceci dit, on aurait pu l'évoquer puisque le représentant de Taïwan, M. François Wu, a été présenté au cours de la remise de décoration de la Légion d'honneur de M. Gatolin, qui est un sénateur, au président de la République il y a quelques jours, en même, oui, temps que le Premier ministre en exil tibétain. Donc il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le débat public aujourd'hui, on parle très peu de oui, personne, surtout Taïwan, on n'en parle pas parce que c'est un sujet qui fâche.
Oui, puis parce que les relations internationales sont fondées sur la puissance, oui, et que même si on est favorable à l'indépendance et l'autonomie de Taïwan, ben, la puissance chinoise fait que les pays européens sont très limités.
Alors moi je voulais revenir sur la partie de la Chine. Parce qu'on a toujours l'impression que cette Chine est pacifique. Faut toujours se souvenir quand même que dans les années 50, ils ont envahi le Xinjiang, qu'ils ont assimilé aujourd'hui, qu'ils essaient d'assimiler aujourd'hui. Ils ont envahi le Tibet. Ils ont envahi un tiers de la Mongolie. Et que depuis une dizaine d'années, ils sont en train de reprendre en main toute la mer de Chine méridionale. Et si on prend les traités internationaux, normalement, ils n'ont pas le droit de prendre l'ensemble de la mer méridionale.
Mais la Chine ressemble à la Russie, quoi. Ou la Russie ressemble à la Chine.
Ils se ressemblent tous les deux.
C'est le même, ce sont des impérialismes voisins.
C'est deux autocrates dictateurs qui sont en train d'essayer de rêver ce qu'ils étaient autrefois. Ce que veut Xi Jinping, finalement, c'est retrouver une Chine qui date de la dynastie des Qing, qui était gigantesque sur le plan territorial. C'est un peu sa vision. Et évidemment, la dynastie des Qing, en plus, qui n'est pas chinoise, qui est manchou. Donc, mais enfin, en dehors de ça, son idée, c'est ça. Et donc, de revoir une Chine en tant que, on va dire, superpuissance mondiale et en compétition avec les États-Unis, évidemment, directement.
Sur le plan économique, la Chine a mieux réussi que la Russie. C'est évidemment qu'aujourd'hui, c'est un acteur qui pèse. Et la guerre en Ukraine lui a aussi été profitable. Elle a réussi à en tirer profit, notamment en imposant sa monnaie comme étant une monnaie concurrente du dollar. Dans la guerre des monnaies, quelque chose de fondamental. On voit la Chine mener aussi une guerre du droit, en copiant d'ailleurs le modèle de guerre du droit américain. Et puis en imposant sa raison d'être, une sorte de domination économique sur toute la partie Asie du Sud, l'Indonésie, les Philippines, qui est aujourd'hui un vaste espace chinois au niveau économique, au niveau bancaire aussi.
Bien, alors on va parler du rôle de l'Europe, quelle doit être la position de l'Europe, parce que les Chinois ne veulent pas se mettre l'Europe à dos.
L'Europe est un grand marché. Il faut se souvenir qu'en 2022, le déficit européen vis-à-vis de la Chine, c'est 400 milliards d'euros.
Oui.
Donc nous finançons la Chine.
Qui possède une part de la dette française aussi.
Qui possède une part de
donc
la dette française.
Ça compte. La dette, c'est un vrai sujet. Parce que quand on parle de Taïwan, quand vous parlez de Taïwan avec Xi Jinping qui possède une partie de votre dette, vous êtes forcément pieds et poings liés. Votre marge de manœuvre est réduite.
Ben, évidemment.
Une partie de la dette grecque aussi. Il faut voir que en 2010, pendant la crise des dettes souveraines, c'est la Chine qui vient au secours de certains pays. La Grèce, le Portugal, l'Italie. Alors, qui engage ces pays à suivre la Chine.
C'est une façon de conquérir, c'est une conquête cachée, une manière de conquérir. Alors Diane va intervenir dans un instant, parce qu'on va parler de la réponse, quelle doit être la réponse européenne, et comment faire pour résister, pour être à équidistance en quelque sorte entre les États-Unis et la Chine. Comment l'Europe peut-elle résister à ces deux grandes puissances? C'est un des grands sujets de la géopolitique et de l'économie mondiale en ce moment. Je vais prendre Diane tout de suite, qui est à Perpignan. Bonjour Diane. Diane. Allô?
Oui, allô?
Oui, Diane. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, que vouliez-vous dire?
Eh bien, vous parliez sur Xi Jinping, là, qui était arrivé en France, et j'entendais tout à l'heure que vous disiez qu'il fallait, il fallait le punir, compétitif avec la Chine. Ça me fait rigoler quand même.
Non, pas le punir. Il s'agissait de mettre des barrières douanières un peu plus solides à l'importation des produits chinois.
Oui, mais alors laissez-moi rigoler quand même. Parce que regardez, rien qu'un exemple, les panneaux solaires. On a des usines françaises.
Non, il n'y en a plus.
On en avait deux. On n'en a plus. Mais pourquoi? On en avait deux. Pourquoi on n'en a plus? Tout simplement parce que nous, on les taxe, tout ce que je veux. Eux, les Chinois, ils aident, ils les subventionnent.
Oui.
Donc quand ils arrivent, ils
sont
beaucoup
moins chers.
On ne peut pas être compétitif. Qu'est-ce qui se passe avec les Chinois ont bien dit que si on les embêtait, il y a le vin de France qui est vendu en Chine, il va être pénalisé. Comme les Américains ont dit quand il y avait Trump. C'est-à-dire que le vin français, si on pénalise...
Le cognac, surtout.
Voilà, va être... en grande difficulté. Et c'est-à-dire que toutes nos entreprises françaises, c'est les plus perdants. Je parle pas de l'Europe parce que l'Europe n'aide pas. Parce que s'ils se mettaient tous ensemble d'accord, les 27, on pourrait lutter contre la Chine. Mais on se tourne tellement le dos les uns des autres qu'on ne pourra pas être compétitifs.
Donc il faut plus d'Europe.
Non, il faut plus l'Europe. Je vous dis pas plus d'Europe. Comment? Il faut plus d'aide. Il faut que l'Europe se tienne les coudes. Ils ne se tiennent pas les coudes. Et tant qu'ils ne se tienneront pas les coudes, ils n'en ont pas l'intention.
Diane.
Donc c'est parler pour rien dire sur la Chine, parce que la Chine,
Diane, de réfléchir, ce n'est jamais parler pour rien dire. Pardon de vous le dire, Diane, mais jamais. Et de réfléchir à la situation géopolitique, c'est tellement important. La La géopolitique a pris tellement d'importance aujourd'hui dans notre monde. Je ne sais pas si les Français se rendent compte suffisamment de cela. Les rapports internationaux sont tels aujourd'hui. Le monde a tellement évolué, un tel désordre mondial qu'on ne peut plus ignorer ces problèmes géopolitiques. On ne peut plus les ignorer.
Oui, je voulais revenir sur les panneaux solaires ou les voitures électriques. C'est vrai que les Chinois les fabriquent avec des subventions très importantes de leur gouvernement, ce qui leur permet évidemment d'exporter pas cher. Mais on ne tient pas compte non plus, parce qu'on parle souvent que ça aide à la transition énergétique, etc. Maintenant, il faut se rendre compte que les Chinois, pour fabriquer ce qu'ils font, sont en train de détruire des zones entières en Mongolie, en Chine, en Afrique, et qu'ils ouvrent 2 centrales thermiques au charbon par mois.
Mais oui, c'est un argument, sous l'argument écologique, parce que les Chinois avancent cet argument écologique, mais derrière, détruisent la planète. Oui. Et c'est vrai.
Oui, à ce sujet, c'est les Européens qui ont voulu remplacer les moteurs thermiques par les moteurs électriques. Donc, c'est aussi un très beau cadeau à la Chine.
Oui, c'est vrai. Il fallait, parallèlement à cela, subventionner l'industrie automobile européenne.
Oui, sauf que les batteries des constructeurs français, elles ne sont pas fabriquées en France, elles sont construites...
Elles le seront, mais elles ne le sont pas aujourd'hui, vous avez raison.
Sauf qu'il faut faire très attention, parce que quand on écoute les économistes, la chanson c'est que la Chine nous aide à faire la transition, mais maintenant c'est un peu le nuage de Tchernobyl, c'est-à-dire l'impression que ça va s'arrêter sur nos frontières, mais la destruction de la planète, on en a des conséquences tous les jours et partout.
Bien, il est 9h46, à tout de suite.
Sud Radio Le Puy-en-Velay.
91.
Sud Radio.
Tu seras
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
On le sait, l'économie et la géopolitique sont étroitement liées. La Chine, aujourd'hui, souffre sur son marché intérieur. Je veux dire par là que la Chine produit beaucoup de biens d'équipement, énormément, mais ne les vend pas aux Chinois, parce que les Chinois ne les achètent pas. Donc que fait la Chine? Elle accumule ses biens de consommation qu'elle essaie de répandre partout dans le monde, et notamment en Europe. C'est ce qui est venu chercher aujourd'hui Xi Jinping, Alain Wang.
Alors, c'est vrai qu'il y a un axe vers l'Europe, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a un troisième axe qui s'est beaucoup ouvert ces temps derniers, c'est l'Asie.
C'est l'Asie.
Et l'ASEAN en particulier. Aujourd'hui, on a des exportations, enfin des relations commerciales qui sont à peu près équilibrées, un tiers vers les États-Unis, un tiers vers l'Europe, un tiers vers l'ASEAN. Et ça, c'est assez nouveau. Je dirais que c'est la politique de dérisking, quelque part, du gouvernement chinois pour éviter d'être trop dépendant à l'avenir, peut-être justement de l'Europe et peut-être des États-Unis.
Parce que les Américains ont mis des freins.
Évidemment.
Des freins à l'importation de produits chinois. Ce que l'Europe devrait faire, est-ce que l'Europe devrait le faire, Jean-Baptiste
L'Europe peut le faire. Le problème, c'est que quand vous montez les droits de douane, oui, vous touchez aussi, c'est-à-dire que les prix des produits vont augmenter, donc ça va entrer en contradiction avec la question du pouvoir d'achat. Oui. Il faut bien voir qu'on va acheter des choses plus chères. Et puis, la Chine est un concurrent, mais il y a aussi un retard dans l'industrie française. Les normes, la fiscalité, les charges. On est dans un monde qui fait qu'on doit avoir une concurrence mondiale, qu'on le veuille ou non, il y a une concurrence mondiale. Si l'industrie française a des boulets qui est mis par une suradministration, elle peut plus lutter.
Oui, mais la concurrence mondiale est inégale, puisque nous mettons des règles, et notamment nous respectons les règles du commerce international, ce que font ni les Chinois ni les Américains.
Alors, c'est vrai, mais il y a aussi des règles qu'on s'est mis aux pattes, que l'action des centrales nucléaires, par exemple. C'est pas les Chinois qui ont fait fermer les centrales nucléaires françaises.
Non, ça, on est d'accord.
Donc, il y a aussi une inégalité par ce biais-là, où non seulement on a une naïveté par rapport à l'extérieur, et en plus, on se rajoute des normes qui ne devraient pas y être.
Alors, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait été assez intelligent il y a très très longtemps, qui s'appelait Michel Barnier, qui avait émis l'hypothèse que vis-à-vis de la Chine, la seule solution qu'on avait, c'était la réciprocité. C'est-à-dire de se dire aux Chinois, vous avez accès au marché européen, mais en échange, il faut que nous ayons aussi, nous, le même accès sur le marché chinois. Et je pense que la bataille, elle est là, parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas accès au marché chinois.
Mais parce que notre commerce extérieur est considérablement déficitaire avec la Chine. Oui. Ah si, je regardais les chiffres.
Ah oui, c'est sûr. Mais on a quand même pas mal d'entreprises qui sont en Chine actuellement, oui, et qui pourraient éventuellement travailler autrement, pouvoir vendre leurs produits, etc. C'est plutôt des produits qui sont fabriqués pour aller sur l'exportation et pas pour rester en Chine et vendre sur le marché chinois.
C'est-à-dire qu'il y a des barrages. Nous, Français, nos entreprises vont installer des usines en Chine pour venir nous envahir de produits.
Oui.
Chinois fabriqués par des entreprises françaises.
Bien sûr, oui.
Il y a eu des cas. Danone, par exemple, a eu un problème il y a quelques années avec des vols de brevets dus à une association faite avec une entreprise chinoise. Évidemment, Danone avait porté plainte en Chine, mais enfin, dans ces cas-là, il était sûr de perdre. Donc, il y a eu plusieurs gros industriels français qui se sont un peu brûlés les ailes en se rendant compte qu'effectivement, les règles étaient inégales et qu'elles étaient forcément toujours contre eux.
Mmh. Oui. Et elles sont d'autant plus inégales que depuis l'arrivée de M. Xi Jinping, il y a une reprise en main quand même qui est assez dure. La dernière loi, c'est la loi sur l'espionnage qui a été mise en place, enfin renforcée depuis le 1er juillet dernier, qui aujourd'hui met en péril pratiquement tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes en Chine, vous êtes homme d'affaires, vous discutez de quelque chose, vous essayez de savoir quelque chose sur votre concurrent qui est un concurrent d'État, vous pouvez être taxé immédiatement d'espionnage et être arrêté. Ça pose quand même de sérieux problèmes.
Oui. Le régime s'est durci. Il ne s'est peut-être pas refermé, mais il s'est durci dans tous les cas.
On le voit d'ailleurs avec Hong Kong, on parlait de Taïwan tout à l'heure, Hong Kong c'est aussi un vrai sujet, oui, où là aussi les Européens n'ont rien fait, alors que la Chine a violé un certain nombre d'accords lorsqu'il y a eu la rétrocession de Hong Kong à la Chine, qui fait que cette cité-État qui était un lieu de liberté économique ou intellectuelle, aujourd'hui voit ses libertés se restreindre.
Oui, évidemment.
Avec des symboles sur la liberté de la presse, liberté des ONG, liberté aussi. Les grands cabinets de conseil américains ont tous quitté, je dirais, la Chine, sont en train de quitter Hong Kong parce qu'ils ne peuvent plus travailler.
Oui. Alors, il y a les problèmes économiques et puis les problèmes des droits humains.
Évidemment.
La Chine ne respecte absolument rien en matière de droits humains dans le monde et finalement, personne ne le lui dit. On parle beaucoup de génocide à Gaza ou de possibilité de génocide à Gaza. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, hein, mais vraiment, on ignore totalement, on se moque totalement de ce qui se passe avec les Tibétains, avec les Ouïghours.
Oui. Alors, simplement, c'est qu'aujourd'hui, on dira au niveau des Nations Unies, je dirais la grande structure est un peu brinque-ballante dans le sens où souvent la Chine a grosso modo, on va dire, entre 120 et 133 pays qui lui sont acquis. Et à chaque fois que la Chine est mise en cause sur le plan, on va dire, des droits de l'homme, évidemment, elle actionne le levier de la majorité et on arrête toutes les procédures contre la Chine. Il y avait eu un rapport qui avait été émis sur le Xinjiang, il a été bloqué parce que les Chinois l'ont bloqué avec leurs amis.
Est-ce que la Chine, la Chine s'inquiète quand même sur le terrain géopolitique, est-ce que la Chine a progressé ces dernières années ou pas sur ce terrain-là? Est-ce que la Chine est plus puissante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ou 20 ans ?
À mon avis, oui. Quand on regarde l'Afrique, que sur le plan commercial...
La concurrence russe, quand même, en Afrique, un peu, non ?
Oui, mais l'Afrique, c'est rien. C'est à peine 2% du commerce international pour la Chine. Donc, c'est important pour les Africains, la présence chinoise. Mais pour la Chine, la question africaine n'est pas importante. Je pense que
c'est des matières premières, quand même.
Oui, mais c'est assez faible. Le vrai concurrent, c'est l'Inde. Là, il y a une vraie concurrence. D'ailleurs, même d'un point de vue démographique, puisque l'Inde aura probablement plus d'habitants que la Chine dans les 10-15 ans qui viennent. Et l'Inde est aussi une très grande puissance pharmaceutique. Et d'ailleurs, je trouve que c'était intéressant, du point de vue de la diplomatie française, d'avoir à la fois accueilli le premier ministre indien l'année dernière, le 14 juillet, grande fête, grande réception, et aujourd'hui Xi Jinping. On voit bien que la France, dans sa diplomatie, essaye de jouer un peu sur les deux tableaux.
Oui. On est dans le même temps.
Hein. Oui, on est dans le même temps. Justement, à propos de l'Inde, est-ce qu'aujourd'hui, l'Inde est en train de rattraper la Chine?
Oh, ça mettra du temps.
Ça mettra du temps.
Oui, beaucoup de temps, parce que je dirais l'Inde est en train de commencer véritablement son décollage industriel. Oui. Et puis sur le plan technologique, la Chine est largement en avance sur l'Inde. Je pense qu'il faudra attendre quand même 15-20 ans avant.
Donc l'Inde n'est pas un rival de la Chine.
Non, elle espère l'être. Elle est sur les sujets pharmaceutiques et agricoles. Mais effectivement, pour tout ce qui est industrie fine ou lourde, là, non. Et le gros avantage de la Chine aujourd'hui, c'est la robotisation. Enfin, en termes d'avantages économiques, la Chine a robotisé ses ports de manière très importante. Les ports chinois sont parmi les premiers ports au monde. Et là, sur la robotisation, elle a un avantage qui... pourra peut-être lui permettre aussi d'affronter la question du vieillissement de la population, parce que la démographie, c'est un vrai sujet. La pyramide chinoise connaît une explosion de population âgée, une réduction de la population jeune, et donc la robotisation peut être une solution à cette contrebalancement
démographique. Mais est-ce qu'on voit déjà la rivalité entre la Chine et l'Inde émerger en Asie ?
Ah oui, parce qu'il y a des confrontations sur les frontières sino-indiennes, enfin, qui sont contestées de chaque côté, avec des déheurts qui sont très violents. Alors pour l'instant, ils ont passé un accord comme quoi ils n'utilisaient pas les armes létales, mais ils se tapent à coups de bâton, etc. Et ça fait quelques morts quand même. Donc il y a des jeux quand même sur cette frontière himalayenne qui sont très très importants.
Oui, et il y a l'océan Indien aussi, que l'Inde considère évidemment comme son océan, mais où la marine chinoise est en train de s'installer. La Chine a énormément investi dans la marine, elle veut dépasser la marine américaine, et la Chine est de plus en plus présente dans l'océan Indien, également d'ailleurs à La Réunion, au Kenya, en Tanzanie. Et là aussi, il y a concurrence chinoise contre la présence française.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir pour parler de la Chine. Merci. Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent Alexandra Redamiel, qui est directrice des divertissements et des jeux à France Télévisions, chef de la délégation française à l'Eurovision. Il est 9h57. Merci d'être avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+.
Sud Radio.
J'aime ma vie sombre, sinon les romans n'existent pas. Ton sort sur cicatrice à moi. Le jour
magnétique. Dis les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. C'est la formule magique de l'amour magnétique. Dis les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. Du miel, du sel en bombe, le feu qui brûle en moi, mon cœur.
Sud Radio.
De mon amour, je te donne la totalité. Mes arrivées, mes départs, la dualité.
De mes virages, mes ratures, quand j'envisage en démesure. De mes douleurs, de mes joies, la réalité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
De tous mes torts, je te donne la totalité. Tous mes défauts, j'en ai pas en réalité.
Tous mes mensonges, mes humeurs, tous mes envols, être ailleurs. Je suis sûr de mes doutes, la complexité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié,